Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Et peut-être justement l'action de Dieu dans nos vies, à ce sujet de ce soir. Voilà, c'est tout à fait, je crois, l'axe.
On va en parler, ou plutôt la partie de l'homme.
Oui, oui.
Puisque dans la relation à Dieu, il y a deux mouvements.
Mm-hmm.
Un mouvement qui descend,
oui,
la grâce. Et puis le mouvement de l'homme qui tend vers Dieu.
Voilà.
Donc on verra.
On va voir qu'il y a un rapport.
Il y a un rapport.
Sublimation et spiritualité. Voilà, c'est ce dont nous allons parler ce soir. C'est la sublimation et son lien avec la spiritualité, c'est ça?
Oui. On va en parler d'abord d'une façon un peu générale, parce que ça concerne énormément de choses dans la vie.
Mm-hmm.
Et puis, après, on développera un peu plus l'aspect avec la spiritualité.
Mm. Voilà. Alors, écoutez, c'est vrai que... qu'est-ce que c'est alors? C'est un concept.
La sublimation, c'est un processus d'abord.
Un processus.
C'est un processus psychique, et c'est Freud qui a développé après le concept, qui l'a conceptualisé en quelque sorte.
Mais c'est un processus psychique.
Mais c'est un processus psychique qui existe bien sûr en l'homme depuis l'origine de l'homme, ou de l'humanité. Et ça, c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, c'est sans doute un des processus qui différencie l'homme aussi de l'animal.
De l'animal, qui peut avoir une affectivité, l'animal, ou une aide. Et il y a des animaux qui ont...
Alors, peut-être, c'est pas si clair que ça sur l'affectivité des animaux. On sait tous que les animaux sont très affectifs. Mais là, on va voir que la sublimation élargit bien au-delà de l'affectivité, ce qu'a pas forcément l'animal. Alors peut-être les animaux qui s'organisent en société. Voilà.
Mais on ne sait pas.
On n'a pas analysé d'animaux.
Non, ils ne parlent pas d'ailleurs. Enfin, ils ont un autre langage, mais pas le langage humain. Voilà. Donc c'est un processus psychique au départ. Hein. C'est ça que Freud a conceptualisé.
A découvert, conceptualisé. Beaucoup en lien avec Léonard de Vinci, avec l'étude des œuvres de Léonard de Vinci. Oui. Donc beaucoup au départ, avec l'aspect artistique mais aussi avec la littérature,
Donc Freud s'est penché à observer ces phénomènes chez les artistes.
Autour des arts.
Oui, autour des arts.
Soit de la peinture, soit de la littérature.
Il s'est posé la question, comment ça fonctionnait chez l'artiste?
Il s'est posé la question, qu'est-ce qui faisait que certaines personnes
pouvaient
finalement s'orienter vers l'art qu'est-ce qui faisait ça? Il parle de prédisposition, mais c'est là aussi qu'il a développé en quelque sorte le concept de sublimation.
Voilà. Donc, alors justement, quand on parle dans le langage courant de sublimation, c'est vrai qu'on pense aux artistes souvent.
Voilà. Alors, parce que Freud en a parlé pas mal en lien avec les artistes, mais dans le langage courant,
c'est plutôt un côté péjoratif.
Voilà, c'est un côté péjoratif de saltimbanque. Ou alors, on en parle aussi dans la dimension spirituelle, mais là encore, d'une façon négative.
Oui, c'est sublime, enfin bon.
C'est une façon de se moquer soit des artistes, soit des croyants, ou du côté mystique des croyants, par exemple.
Donc il y a là quelque chose qui est pas juste.
Qui est pas juste, et on va voir que c'est pas juste du tout.
Du tout. Alors,
mais,
oui.
Voilà, quand dans le langage courant, les gens disent de quelqu'un qu'il sublime, il y a quelque chose qui sonne faux. C'est-à-dire que dans leur esprit, il ferait mieux de faire autre chose.
Ah oui. Autrement. Oh, il sublime, voilà. Il est à côté de la plaque, quoi.
Ouais. En gros, voilà, en gros, c'est ça.
Alors, justement, quand on parle de sublimation, voilà, on a
c'est
pas
être
bonne
à
image.
Côté de la plaque, échapper aux contraintes de la vie.
Une fuite. En quelque sorte, c'est
voilà,
vu comme
c'est,
une fuite.
C'est vu comme une fuite dans quelque chose qui serait irréel. Enfin, ou irréel ou qui ne présente pas d'intérêt.
Oui,
voilà.
Oui.
C'est parce qu'un artiste, il crée bien des choses réelles. Mais dans l'esprit des gens qui n'est pas concret, pratique, qui ne sert pas dans la vie...
L'aspect de la gratuité, ça échappe
souvent, ça échappe souvent. Voilà, et du coup, ben, on se moque des gens qui subliment sans trop savoir ce que ça signifie. Et on va même réaliser que finalement, ceux qui se moquent de ceux qui subliment...
Feraient
bien de sublimer, que c'est eux qui sont dans l'erreur.
Voilà, donc... Alors, on va voir ce que c'est. Réellement, que la sublimation.
Voilà, on va voir ce que c'est, comment ça se passe. Mmh. On va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu complexe. On va voir son utilité aussi, où est-ce que ça se présente dans la vie. Et puis, on se posera la question, est-ce que c'est possible de favoriser ou pas la sublimation ?
Puisque c'est quelque chose de positif.
Voilà, alors, et puis bien sûr, du lien avec la spiritualité, puisque c'est un des grands thèmes avec la dimension artistique.
Bien sûr,
du processus de sublimation.
Alors, il y a des plans différents. Qu'est-ce donc que la sublimation ? Peut-être d'abord en physique, on peut dire, est-ce qu'il y a quelque chose...
Voilà, parce qu'avant Freud, c'était un terme qui existait déjà en physique. Et en fait, dans ce cas-là, c'est le passage d'un corps solide directement à l'état gazeux sans passer par une phase liquide. Autrement dit, voilà, par exemple, la neige carbonique qui est utilisée pour éteindre les incendies, elle est formée d'un gaz... Donc, de CO2, de dioxyde de carbone, qui est solide dans l'extincteur, c'est une poudre.
Oui.
Et quand on le pulvérise, ça devient gazeux. Et comme c'est du gaz carbonique, ça prive le feu d'oxygène. Et
donc,
du coup,
ça éteint le
feu. Voilà, mais ça passe directement d'un état de poudre solide à l'état de gaz,
d'accord,
sans passer par un état liquide.
D'accord. Un autre exemple.
Voilà, la glace ou la neige peuvent aussi se sublimer à une température inférieure à 0 degré. Parce qu'à 0 degré, l'eau fond, enfin la glace fond. Mais elle peut se sublimer à une température alors proche de zéro, mais inférieure. Et ça fait que ça passe directement du solide à la vapeur d'eau, sans passer par la fonte et l'air liquide.
Voilà, donc c'est un terme scientifique au départ.
Alors, au départ, c'est un terme...
Un constat de... Et utilisé en science.
Voilà, qui est utilisé en science pour évoquer la transformation d'un état à un autre état, alors considéré plus élevé, entre guillemets, mais en tout cas au niveau de l'énergie, entre le solide et le gazeux.
Oui, qui est beaucoup plus... qui monte.
Voilà, sans passer par des étapes intermédiaires. Ça correspond aussi au rêve des alchimistes dans le temps.
Au Moyen-Âge,
de transformer le plomb en or, en le sublimant, en quelque sorte.
Oui, c'était donc une opération scientifique. Donc les alchimistes essayaient transformer.
De transformer, là, pour le coup, de quelque chose qui était courant sans valeur en quelque chose qui avait une valeur.
Donc, il y a sur ce plan-là, au-dessus, quoi.
Oui.
Alors, ça, c'est en physique, hein, au départ. Mais alors, en psychanalyse, ce que Freud a découvert ou a utilisé, comment c'est à partir des artistes.
Hein, il l'a défini pour la première fois en 1905 dans son livre qui est « Les trois essais sur la théorie sexuelle ». Il fait ça pour rendre compte d'un type particulier d'activité humaine. Donc, tout ce qui est artistique, création littéraire ou intellectuelle, sans rapport apparent avec la sexualité, mais tirant sa force de la pulsion sexuelle en tant qu'elle se déplace vers un but non sexuel. Autrement dit, dans sa conception, c'est les artistes, toutes les créations, d'ailleurs, qu'elles soient artistiques, intellectuelles ou autres, trouvent leur origine dans la pulsion sexuelle.
Cette énergie
voilà,
vitale.
Voilà, la libido, en fait, qui est l'énergie vitale.
Oui, oui.
Orientée...
L'éros, on peut dire l'éros.
Oui, voilà, l'éros.
Dans le sens, même dans le sens primordial, cette force de vie.
C'est la force de vie.
Même Benoît XVI l'a utilisé dans Dieu est amour, pour la première fois.
Voilà.
Escaritas,
alors,
hein,
c'est Eros ou Thanatos.
Oui,
donc,
ou Thanatos.
Force de vie ou
force de mort. Oui.
Donc, la force
primordiale,
de vie,
on peut dire.
Primordiale, qui pour Freud est sexuelle. Et donc, cette énergie-là, elle est orientée vers un but non sexuel.
Qui est, par exemple, la création artistique
ou littéraire ou intellectuelle.
Oui. C'est le déplacement, finalement, vers un but...
Vers un but non sexuel, en investissant des objets socialement valorisés. Voilà, une œuvre artistique, un livre, un travail intellectuel.
Donc, il y a une élévation, quelque part.
Voilà, il y a une élévation, ou en tout cas, une reconnaissance.
Une reconnaissance, oui.
Voilà, autrement dit, il s'agit de transformer l'énergie sexuelle, donc la libido, en la faisant dériver vers d'autres domaines, notamment les activités artistiques.
Voilà. Alors, on va sans doute y revenir là dans quelques instants, parce que finalement, ça, c'est son premier constat, mais on va voir que la sublimation ne concerne pas seulement les pulsions sexuelles.
Non, ça concerne aussi les pulsions agressives. Hein. Il y a deux grandes pulsions, les pulsions sexuelles, les pulsions agressives. Et donc, ça concerne les deux
pulsions.
Les deux pulsions.
Qui peuvent être transformées.
Oui.
Et donc, certains métiers, on va le voir, peut-être, subliment, utilisent...
Utilisent, mais... Sans doute que
sans le savoir,
nous tous, on l'utilise sans le savoir. Alors, il y a peut-être des métiers où c'est plus flagrant d'une certaine façon.
Alors, on va laisser un peu de suspense et on va y revenir dans quelques instants. Et tout de suite, nous allons écouter, c'est Florent Pagny qui chante « Savoir aimer ».
Radio Notre-Dame.
Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre. s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur. Quand on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, entrer comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir, silence sans murmure, ni défense ni armure, souffrir à vouloir. Comme on renaît de ses cendres, avec tant d'amour à revendre, qu'on tire un trait sur le passé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre et s'en aller. Apprendre à rêver pour deux, rien qu'en fermant les yeux, et savoir donner, donner sans rature ni demi-mesure.
Florent Pagny, savoir aimer, est-ce que ça a un rapport, savoir aimer, avec ce processus de sublimation ?
Oui, on verra.
On verra.
On verra que, en tout cas, que ça participe beaucoup à l'amour au sens large et dans ses différentes acceptations.
Mmh.
Que ça soit la tendresse, l'amitié.
Oui. On va voir tout ça.
Ouais.
On va pas sauter les étapes, mais c'était juste. Alors, donc, on voyait que Freud a découvert, a conceptualisé ce qu'on connaissait déjà,
voilà,
parce
oui.
que ça existe. C'est un processus psychique qui existe.
Qui existe dans l'homme, sans doute depuis l'origine du temps, et qui a participer à la civilisation.
Bon, on va voir ça, hein, on va voir ça. Et à l'évolution, oui. Bon. Vous disiez que la sublimation ne concerne pas que les pulsions sexuelles, voilà. Mais aussi les pulsions agressives.
Oui, parce que c'est souvent dans le fantasme des gens, c'est souvent que sexuel, la sublimation.
Oui.
Mais on verra que ça concerne aussi les pulsions agressives.
Mm-hmm. C'est un processus complexe.
Alors, c'est un processus complexe. On ne va pas développer ce qui se, comment se passe ce processus, parce que ça serait un peu compliqué. En plus, ce n'est pas tout à fait très clair déjà encore oui. chez les psychanalystes.
Donc,
on sait à peu près comment ça se passe, mais bon, il y a
des choses.
C'est encore en discussion comme processus,
d'accord.
justement parce que c'est très complexe.
Mmh.
Mais on va présenter quelques aspects, alors très simplifiés,
oui.
mais qui vont nous aider à mieux en comprendre les enjeux.
Bah oui, parce que c'est ça qui est important, les enjeux. Oui. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que la pulsion déjà ?
Alors la pulsion, c'est l'énergie psychique qui émane du corps. Autrement dit, c'est l'équivalent psychique des instincts. Parce que l'instinct concerne la physiologie, en quelque sorte,
oui.
Et la pulsion, la psychologie ou le psychisme.
Oui.
Voilà, mais c'est la même chose, c'est l'équivalent.
Finalement, cette force de vie, hein,
c'est
qui dans biologique,
voilà.
c'est l'instinct,
voilà.
ou psychique, c'est la pulsion.
Voilà, qui se situe au
niveau oui.
psychique.
Mmh.
Qui va se lier... Donc, ça émane du corps, de nos sensations, de notre énergie vitale.
Mm-hmm.
Et elle va se lier à des représentations, à des images
mm-hmm.
ou à des scénarios. Alors ça se passe dans l'inconscient. Les scénarios, c'est ce qu'on appelle les fantasmes.
Mm-hmm.
Et émerger après à notre conscience. Mais mmh. on est encore dans tout le domaine de l'inconscient, là.
Avant que ça émerge.
Voilà. Et au moment où ça va émerger, il y a plusieurs possibilités.
Oui, c'est-à-dire
soit la pulsion est acceptable, et dans ce cas-là, elle peut arriver à la conscience, et elle nous pousse vers un but, vers une action.
Mmh.
Voilà, c'est ce qui
oui,
se passe.
C'est le processus normal
voilà,
d'une vie,
normal,
enfin, mais sans
oui.
qu'on analyse.
Quand on a un désir qui est socialement acceptable, eh bien, voilà, on l'accueille
réalise.
Et on peut le réaliser.
Mmh.
Soit oui. c'est pas acceptable et ils sont refoulés dans l'inconscient.
Et ça, c'est pas bon.
Donc, ça n'émerge pas à la conscience. Si ça se passe bien, c'est pas mauvais.
C'est pas mauvais si ça
voilà,
se passe
ça
bien.
Reste dans l'inconscient, mais ça vient pas perturber le fonctionnement.
Voilà. Bon.
Et puis,
c'est quand ça se passe bien, le refoulement.
Voilà.
Mais parfois,
le refoulement fonctionne mal.
C'est d'ailleurs dans ces moments-là, on en parle.
Voilà, et ça va donner des symptômes... névrotique,
exemple,
alors
oui.
ou de la somatisation, des TOC, des troubles obsessionnels, des phobies, et tout ça avec plus ou moins d'angoisse ou de culpabilité.
Mmh. Hein. Donc ça, c'est un domaine que les psys connaissent bien. Enfin,
voilà,
les patients, c'est qu'on travaille.
C'est là-dessus qu'on travaille. En tout cas, quand il y a des symptômes,
oui.
On travaille à mettre à jour ce qui est inconscient pour que la personne puisse le gérer plutôt que ça se manifeste sous forme déviée d'un symptôme.
Mmh. Et repère mettre le courant vers
voilà.
la sublimation. Après.
Idéalement, oui.
Idéalement.
Idéalement.
Bon.
Donc il existe une autre voie qu'on pourrait qualifier un peu de voie royale, et c'est la sublimation.
Donc dans ces différentes possibilités, où
voilà.
c'est acceptable, ça arrive à la conscience, ça pousse vers un but,
voilà.
une action.
Où c'est bien refoulé,
oui.
et ça pose pas de problème,
oui.
ça reste dans l'inconscient, mais ça pose pas de problème. Où c'est mal refoulé. Et dans ce cas-là, il va y avoir des symptômes psychologiques ou somatiques voilà, qui vont poser problème.
Mmh. Alors, et puis, alors, ça se passe vraiment une voie qui est, que vous dites, royale, parce que c'est...
Oui, parce que ça se passe bien aussi. Alors, royale, ça ne veut pas dire que quand c'est acceptable, c'est aussi une voie royale. Hein.
Oui, oui. Mais là, c'est au-dessus encore.
Voilà, par rapport aux problèmes de symptômes névrotiques ou autres, il y a une autre alternative qui est la sublimation.
Ah oui. Au lieu voilà, quand on est devant un obstacle, ou bien on refoule et voilà. Ça se passe, enfin bien,
bah, on refoule, fait ça demi-tour,
on fait gros, demi-tour,
on fait demi-tour, voilà, et ça se passe bien. Faut pas que ça soit trop trop fréquent parce que ça va, y a un moment ça poussera quand même. Ou on bute sur l'obstacle et on se fait mal. Ou alors on trouve un moyen de contourner cet obstacle, de passer à côté sans que ça, sans se faire mal. En gros.
Et ça c'est ça la sublimation.
Et ça c'est la sublimation.
Mais ça se fait comme ça, généralement, le processus se fait
à notre insu. À notre insu. Hein?
Alors, que se passe-t-il alors dans ce cas?
Alors, dans ce cas-là, d'une façon donc, très très simplifiée, l'action va être séparée de ses représentations, donc des fantasmes en quelque sorte, et passée et... Dans un premier temps, elle est séparée des représentations. Dans un deuxième temps, elle est épurée de sa nature sexuelle ou agressive. Et puis, du coup, ça va lui permettre de passer librement la barrière du refoulement, la censure psychique, en s'orientant vers un but esthétique, intellectuel ou social. Ce qui fait que ça permet de disposer de toute l'énergie vitale pour la mettre à la disposition de la créativité et d'une activité. En gros, c'est ça. C'est un moyen qu'a trouvé le psychisme ou l'homme dans son évolution de disposer de toute son énergie d'une façon créative.
Et finalement, oui, c'est ça. Sans doute que tous les génies de l'humanité, dans n'importe quelle branche, ont su sublimer, on peut dire.
En tout cas, probablement.
Probablement.
Probablement, oui.
Tous ceux qui ont fait évoluer, enfin...
Voilà, enfin, en tout cas, la sublimation participe à tous les processus créatifs et d'adaptation sociale. Il y a les deux aspects. Il y a l'aspect créatif, il y a l'aspect... adaptation sociale. Donc, il est probable que les grands génies ont sublimé.
Oui, d'ailleurs, si Freud, enfin, si Léonard de Vinci...
Voilà, il est parti de Léonard de Vinci, et qui était un grand génie.
Oui, en tout domaine. Dans
tous les domaines,
Alors, la sublimation, dites, participe souvent à tous les processus créatifs et d'adaptation sociale. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut... Donnez-nous des exemples.
Là, on va prendre des exemples pour montrer que c'est pas que sexuel d'abord, et que ça concerne aussi les pulsions agressives. On peut imaginer qu'un chirurgien ou un dentiste soit une personne qui a pu sublimer ses pulsions agressives pour les mettre au service des autres. Parce que quand on regarde leur travail, il y a sans aucun doute quelque chose d'agressif.
Oui, un chirurgien, ou un dentiste.
C'est quand même, c'est ouvrir la personne, parfois scier ou découper. Enfin, c'est.
Oui, il faut avoir une prédisposition quand même pour être chirurgien.
Voilà, et un dentiste, c'est pareil, ça fait mal. C'est censé faire mal.
Mais pour un bien, pour
un bien. Voilà, on peut imaginer.
Il faut une certaine pulsion agressive transformée.
Transformée d'une façon constructive qui fait qu'elle n'est plus agressive, et même au contraire, elle participe à sauver des personnes. Mais au départ, on voit bien que c'est quelque chose qui nécessite une agressivité.
Et oui.
Mais qui est transformé
pour un bien
en quelque chose qui n'est pas agressif. Et au contraire, qui est bénéfique.
Ben, je comprends. Oui, on en a besoin, hein, dans certains cas. Ouais. Alors, On peut dire, alors vous parlez de ces métiers, mais est-ce que bon
voilà, mais ça c'était
oui parce que là c'est
pour
très parlant.
Enfoncer un peu un clou, c'est très parlant. Mais dans beaucoup de métiers, finalement, les pulsions étaient sublimées pour s'associer, par exemple, en pulsion de savoir.
Oui.
Et ça, c'est tous les métiers intellectuels.
Oui.
Où la personne va s'intéresser au savoir.
Elle canalise cette énergie vitale vers,
vers le savoir. Et ça se transforme en pulsion de savoir.
Mmh. On peut parler de ça, de pulsion, à ce moment-là,
c'est un
mouvement,
pulsion identifiée.
Un élan.
Un élan à savoir, vers le savoir. Ou dans un but aussi de réparation, par exemple les mécaniciens, les ingénieurs. Alors il y a une partie intellectuelle, mais il y a aussi une partie de démonter les choses, de les reconstruire,
Donc c'est aussi une orientation.
Une
sublimation.
Et une sublimation des pulsions, de choses qu'on retrouve d'ailleurs chez les petits-enfants.
Dans l'éducation
qui cassent quand ils jouent,
par exemple,
ils vont casser leur jouet ou ouvrir le ventre de leur nounours pour voir ce qu'il y a dedans.
Futur chirurgien.
ou qui martyrisent les animaux. Toutes ces pulsions-là.
Agressives.
Parfois agressives, eh bien, elles vont se sublimer vers des métiers, au lieu d'ouvrir, ça va être de réparer les personnes, au lieu de casser, ça va être de faire la mécanique, par exemple, pour comprendre comment ça fonctionne.
Et on voit là qu'un enfant, du rôle aussi, d'une façon, de l'éducation, parce qu'on peut aider l'enfant à orienter.
L'éducation est là d'ailleurs pour aider l'enfant à réorienter et à mettre des mots aussi sur ce qu'il est en train de faire quand il démonte un jouet par exemple. Il y a même des jeux éducatifs comme les Lego où on apprenait à l'enfant à construire. Donc, ils pouvaient construire, déconstruire à loisir et comprendre aussi comment ça fonctionne.
Donc, on voit là, à travers ça, combien tout ça, c'est de la sublimation, mais ça construit l'être humain, sans savoir.
L'être humain se construit comme ça et d'une façon plus globale. Tous les rapports humains, les métiers se construisent aussi comme ça. Alors, pas seulement que là-dessus, mais la sublimation,
Elle y participe beaucoup.
Oui.
Et donc, on voit que ça participe à travers ça, à toute la vie, finalement.
On pourrait citer aussi, bien sûr, tous les processus créatifs artistiques qui orientent l'individu, là, vers le beau.
Oui.
Vers ce qui est esthétique. De la même façon, dans la sexualité pour les couples, la pulsion agressive a été sublimée. La part agressive est sublimée de façon à ce qu'il y ait de la tendresse, à ce que ça ne soit pas que agressif.
Mais aller vers l'autre, c'est l'élan quand même, l'élan, donc...
Alors, la pulsion agressive, c'est... L'agressivité, c'est aller vers aussi.
Oui.
Donc, elle participe à la sexualité dans ce cas-là, mais d'une façon sublimée, quand c'est pas sublimé, c'est de l'agression sexuelle.
Bien sûr. Alors... on va peut-être y revenir dans quelques instants sur toutes ces différentes composantes. On va écouter Eh bien, c'est Tina qui chante ce chant, enfin, sur cette prière de Saint François d'Assise, enfin, qui lui est attribuée en tout cas. Seigneur, fais de moi un instrument de paix.
Radio Notre-Dame.
Voilà, c'était donc Tina, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. On voit la transformation, hein, là ouais. Où est la haine, que je mette l'amour. Voilà. Il y a là quelque chose, et c'est donc ce mouvement de la grâce, et le mouvement de l'homme,
qui s'élève aussi vers Dieu et qui accueille la grâce.
C'est ça. Pour que puisse être transformée ses pulsions. Hein,
voilà.
De haine, donc c'est agressive, en amour, enfin.
Voilà, ou en tout cas que l'agressivité sublimée s'unisse à l'amour pour aimer les autres, pour mettre de la joie, pour tout ce que dit la prière de Saint François.
Oui, oui, oui. Donc notre programmateur a vu juste. Alors, on voit que dans les processus de sublimation sont présents partout.
Partout, presque partout dans la vie, dans toutes les activités humaines ou dans beaucoup d'activités humaines.
Même la vie courante, enfin.
Oui, même la vie courante. Alors, à notre insu, puisqu'on ne s'en rend pas compte, mais qui c'est ce qui nous permet aussi de participer à la vie en société. Si on n'avait pas cette capacité à sublimer, peut-être ça serait encore pire dans la société.
Oui. On va voir, peut-être, c'est peut-être là aussi, il y a des sublimations qui ratent quand on voit des chaos.
Voilà, quand il y a, quand il y a des guerres, quand il y a. C'est qu'on n'arrive pas à trouver un autre chemin à l'agressivité qui soit constructif et non pas destructif.
Ah oui, là, c'est force de mort.
Oui.
Alors. Donc,
voilà, et on pourrait dire que sans cette possibilité de sublimer, on serait soit la plupart du temps réduit à un stade instinctif, en quelque sorte,
oui.
Soit souffrant de symptômes névrotiques.
L'alternative, hein.
Voilà. Alors, pas tout le temps, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent bien. Hein.
Mais
voilà, il y aurait un risque important, soit de fonctionner sur un mode d'instinct, soit d'avoir des symptômes névrotiques.
Alors, vous disiez aussi que c'est un processus, au début, qui nous distingue des animaux.
Oui, dans la mesure, alors, faut peut-être nuancer. Parce que, par exemple, on peut dresser un animal. Voilà, je pense au chien sauveteur.
Oui.
Mais on oriente leurs facultés d'une façon...
Comme un mécanisme.
Comme un mécanisme.
Le dressage.
Voilà, de dressage. Mais c'est pas de la sublimation.
Oui, parce qu'il y a... Dans la sublimation, il y a quand même quelque chose, même si c'est à notre insu, ça peut aller. Enfin, on peut en prendre conscience. L'être humain peut prendre conscience.
Ouais, alors, pas tellement. Enfin, il prend conscience de.
D'une évolution. Voilà, que ça se passe bien.
Que ça se passe bien, d'un désir de réalisation, par exemple, ou de créer, ou de savoir, ou de connaissance, mais il n'est pas conscient de tout ce processus qui, lui, se déroule d'une façon inconsciente.
Mais enfin, chez l'animal, en tout cas, on ne peut pas parler vraiment...
Voilà, on ne peut pas parler. Alors, il y a quand même parfois on voit de l'empathie chez les animaux, ou des réactions d'aide mutuelle chez les animaux, mais c'est pas sûr que ça soit vraiment de la sublimation.
Alors donc, avec tout ça, on voit bien que c'est donc une capacité positive, la sublimation.
Oui, et c'est justement, là on est loin du côté négatif qu'on entend dans les commentaires péjoratifs sur la sublimation. C'est une fonction non seulement utile, mais indispensable dans la vie. Dans la vie en société d'abord, parce que c'est indispensable pour vivre en société, mais aussi dans la vie tout court. Alors, Freud pensait qu'elle n'était pas répartie de façon égale dans les différents individus et qu'il y avait une prédisposition à sublimer. Ce qui est sans doute vrai, d'ailleurs.
Comme pour toutes les prédispositions
humaines. Mais avec la découverte de ce processus, il se pose aussi la question de restaurer la capacité à sublimer lors d'une analyse ou d'une psychothérapie, avec quand même un problème, c'est qu'on ne peut pas agir dessus vraiment. Donc, on peut se dire, l'idéal, ça serait d'aider un patient à sublimer, par exemple, ou en tout cas à avoir cette capacité à sublimer.
Oui.
Voilà, mais
comme le comment processus,
faire?
Oui, voilà. On va voir tout à l'heure, si, en tout cas, si on peut le favoriser.
Voilà, mais en tout cas, on peut l'apprendre comme un critère de bon fonctionnement de la personne, c'est-à-dire une personne qui a cette capacité à sublimer, on peut se dire que c'est un signe de bon fonctionnement.
Oui, oui, oui. Donc c'est positif. Alors, c'est vrai, vous disiez qu'on retrouve un peu partout hein, la sublimation dans de nombreux domaines de la vie. Qu'on a déjà évoqué, mais peut-être qu'on peut en approfondir d'autres, enfin, ou donner d'autres exemples, oui. Parce que ça peut s'exprimer dans différents domaines, par exemple.
Alors, par exemple, l'humour, quand on peut rire de soi ou d'une situation, c'est le signe d'une capacité à sublimer.
On s'élève au-dessus de la situation.
Soit de ses propres erreurs, soit de la situation. Et du coup, l'humour, c'est un dépassement ou une élévation au-dessus d'une situation pour en faire quelque chose de bon ou en tout cas de risible.
Donc de prendre une distance.
Et de prendre une distance. Et puis même de le partager aux autres et de créer du lien avec les autres.
Et oui, donc on voit bien que c'est tout à fait positif.
Voilà. À l'inverse, dans l'ironie, par exemple, on peut y voir une tentative de sublimation qui fonctionne mal parce que la composante agressive reste présente.
Ah oui.
Donc on voit qu'une personne qui est dans l'humour, elle a réussi à sublimer la situation. Si elle est dans l'ironie, ça a loupé un peu. Bon, il y a un peu d'humour dedans, mais il y a aussi de l'agressivité. Ce qui veut dire que la part de sublimation a raté quand même un peu le processus.
Oui, parce qu'il y a un côté négatif, l'ironie.
Et surtout agressif.
Et agressif, oui.
Et voilà, on retrouve la pulsion agressive dedans qu'il n'y a pas dans l'humour.
C'est intéressant de voir la différence là et voir que c'est un processus de sublimation qui réussit dans l'humour
ou qui rate un peu son fonctionnement dans l'ironie.
Ah voilà, alors je pose la question, ça c'est Guillaume qui me pose la question, alors je transmets. Et il me dit dans l'oreille, dans le casque, et l'humour noir alors?
Alors, ça dépend.
Oui.
Ça dépend de si c'est vraiment de l'humour.
Oui.
Ou si c'est un humour noir qui. Parce que l'humour noir est à la frontière des deux.
Ah oui.
Ça peut être vraiment un humour tout à fait sain et duquel on peut rire. Parfois, c'est un humour qui bascule un peu dans l'agressivité.
Oui. Là, c'est à la frontière.
Et là, on est un peu à la frontière.
Voilà, il a eu sa réponse, donc il est content, il approuve. Bon. Alors, voilà un exemple humour ou l'ironie.
Voilà.
Un exemple de sublimation réussie ou de tentative un peu ratée. Autre exemple.
Alors, l'amitié. L'amitié est le type même des relations où la sublimation est présente parce que c'est un amour désexualisé. Deux amis de sexe différent ne ressentent pas de désir ou d'attraction sexuelle l'un pour l'autre, et pourtant, ils peuvent être très proches et s'aimer. Donc, on voit que...
La partie sexuelle a été sublimée.
Voilà. Et vient renforcer le côté amour, mais dans l'amitié. Alors, c'est sans la sublimation... ça serait difficile, et d'ailleurs il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des amitiés hommes-femmes parce que c'est difficile pour eux
de sublimer,
voilà, et d'être uniquement dans l'amitié, mmh. sans arrière-pensée sexuelle ou autre. Mmh. Et on peut voir ça, d'ailleurs, quand ça fonctionne mal, eh bien, il va y avoir de l'ambiguïté. Mmh. C'est-à-dire que la relation va être un peu ambiguë. On, mmh. on sentira que, OK, c'est de l'amitié, mais il y a une ambiguïté sexuelle dans la relation. Mmh. Ça, c'est pour l'amitié homme-femme, mais l'amitié entre personnes du même sexe va dépendre également de la capacité à sublimer la pulsion homosexuelle qui, elle, est refoulée, donc et reste dans l'inconsciente.
De façon bonne.
Voilà, de façon bonne.
Quand c'est un refoulement qui se passe bien, voilà. Oui.
Mais qui va être sublimé pour permettre,
une amitié,
de la même façon, une amitié entre personnes du même sexe.
Sans que, justement, la sexualité, est là, elle est, comme dans toute amitié, elle est
transformée et elle permet cet amour d'amitié, en quelque sorte. Et donc, l'amitié, c'est la capacité à désexualiser la libido, mais les relations, finalement, et à la mettre sur un autre plan de la relation. Voilà, alors peut-être certains vont être choqués, mais c'est la réalité. C'est que.
Qu'est-ce qui peut choquer d'après vous?
Peut-être parce qu'on a souvent, on sépare, il y a l'amour sexuel, il y a l'amitié, il y a l'amour spirituel, tout est bien séparé dans l'esprit des gens.
Mais ça dépend justement de cette capacité à fonctionnement de la sublimation.
Dans les apparences, c'est séparé. Mais il n'y a qu'une énergie de vie en nous, et donc c'est cette capacité à sublimer qui peut permettre de faire apparaître ces différences.
Alors, un autre exemple encore de sublimation, par exemple.
Voilà, la tendresse aussi, on retrouve la même chose dans la tendresse, qui est aussi une forme d'expression sublimée, de la sexualité, en tout cas de la libido, de l'énergie psychique sexuelle. C'est ce que je disais, parce que finalement, il n'y a pas plusieurs natures dans les différentes manifestations de l'amour, mais plusieurs point d'arrivée dans la sublimation, qui peut être l'amitié, qui peut être la tendresse.
Voilà. Et ça forme les relations différentes.
Et ça forme des relations différentes, et tous ces aspects puisent leur énergie dans la libido.
Un grand merci, Pascal Pariné. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs. 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Comment cela vous parle-t-il? Est-ce que ça... Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre avec vos questions ou vos témoignages. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Écoute, dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Ce soir, en compagnie de Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute, animation et spiritualité. Alors, peut-être, vous avez des stages en début d'été, là, peut-être?
Oui, alors il y a un stage de confiance en soi, donc pour retrouver la confiance en soi les 4 et 5 juillet.
Oui.
Et un stage, sortir du harcèlement, de la violence, alors que ce soit au travail ou en famille, les 18 et 19 juillet.
Mm-hmm.
Voilà, et là, on est dans des situations, dans le harcèlement, dans la violence, mm-hmm. où les personnes n'arrivent pas, pour le coup, à sublimer
la pulsion agressive. Ah oui. Donc là, il y a un travail à faire pour essayer de passer à la sublimation.
Voilà. Ou en tout cas, pour ceux qui sont victimes, d'apprendre d'abord à se respecter, à se faire respecter, à poser des limites.
Oui.
Voilà, donc c'est
face
vraiment...
Face à l'agresseur qui
n'arrive pas à sublimer, ni à poser des limites.
Oui.
Voilà comment
soi-même
on peut apprendre à se faire respecter et à poser des limites suffisamment claires et fermes pour que ça s'arrête.
Mmh.
Parce que souvent la limite reste floue, mmh. et si c'est pas assez clair, la personne continue finalement.
Ben oui. Donc voilà, c'est très important. Et donc, les coordonnées pour...
Alors, le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
06 60 15 79 60.
Mmh. Et sinon, contact, oui. au singulier, ifpsy.com.
Voilà. contact@ifpsy.com. Alors, donc, les renseignements sont standards dans la journée, si vous n'avez pas noté. Donc, on va voir, on a commencé à voir comment des exemples différents de sublimation. Hein, on peut continuer.
On a vu la
tendresse, par exemple, l'amitié, l'humour, l'amitié, la tendresse, voilà des façons de sublimer.
Donc, on parlait de la tendresse, alors dans la vie, dans le couple aussi, on sait combien tendresse et sexualité sont associées. Et parfois aussi, sexualité et agressivité. Les couples qui se réconcilient sur l'oreiller, par exemple. Et ça s'explique aussi par la réversibilité du processus de sublimation, c'est-à-dire... On peut sublimer et passer à la tendresse, et puis on peut, à partir de la tendresse qui est sublimée, revenir à la sexualité. Donc ça explique comment le processus peut avoir une part réversible.
Mmh. Donc, quand ça se passe mal, par exemple, qu'il y a une difficulté à sublimer dans le couple,
la personne aura du mal à exprimer de la tendresse, mm-hmm. En dehors de toute sexualité, par exemple.
Mm.
Parce que pour exprimer de la tendresse sans la dimension sexuelle, il faut que ça soit sublimé.
Mm.
Et donc, si ça se passe mal, souvent, ça sera mélangé.
Mmh. Autre forme encore de sublimation, alors
Alors, on pourrait parler du lien social et des préoccupations humanistes. Là aussi, la sublimation participe au lien social, puisque finalement, nos pulsions sont transformées, que ce soit les pulsions sexuelles ou agressives, dans le lien social, elles sont sublimées. Et si, ben, quand on se préoccupe des autres, de leurs conditions de vie, de leur bien-être, si on se sent poussé à faire de l'humanitaire, ou d'une façon plus générale vers l'humanisme, c'est bien que notre énergie est orientée vers les autres et vers un bien commun.
Mmh.
Et donc, qu'elle est sublimée.
Mmh. Alors donc...
Voilà ce qui veut dire, ben, à la fois on a besoin de liens sociaux, on a, oui. on est des êtres en relation,
oui.
Mais quand il est altruiste et non pas égoïste,
oui, quel est le but, oui, voilà, aussi de la relation.
C'est le signe qu'il y a un certain degré de sublimation.
Oui. Quand il y a altruisme.
Voilà.
Oui, quand on ne le fait pas pour soi, mais pour l'autre, oui.
Voilà. Mm. Si c'est pour soi, ben, là, c'est que la sublimation ne fonctionne pas.
Oui. Donc, il y a des degrés différents de sublimation ou pas, ou ça fonctionne bien ou pas, c'est l'un ou l'autre.
Alors, ça peut fonctionner plus ou moins bien. Voilà, dans l'ironie, par exemple, ça fonctionne en partie, mais ça conserve la trace d'agressivité.
Mm-hmm.
Donc, on voit que.
Oui.
C'est peut-être sublimé, allez, on va dire à 50% ou à 80%.
Il y a encore du chemin à faire.
Mais voilà, c'est pas...
processus n'est pas complet.
Le processus n'est pas complet et pas...
satisfaisant.
Pas satisfaisant, oui. Mmh,
mmh. Alors, autre forme encore de sublimation possible.
L'aspiration à progresser, à se dépasser dans la vie.
Oui.
Parce que là, il s'agit d'utiliser son énergie vitale dans un but de progrès, souvent personnel et collectif. Parce que on aspire à progresser, mais pour en faire profiter sa famille ou plus largement ses amis, la société. Enfin, donc il y a vraiment cet aspect-là.
Oui.
Et puis, peut-être que si on n'avait pas la possibilité de sublimer, on serait peut-être sans vraiment un désir d'évoluer. Parce que même les progrès matériels nécessitent une part de sublimation.
Mise en œuvre de notre énergie pour...
Pour construire quelque chose. Pour, et donc, ça participe.
Donc on voit que tout action, c'est une tentative en tout cas pour sublimer.
Oui. Voilà.
Même si c'est pas toujours au top.
Alors c'est pas toujours gratuit, c'est pas. Parfois il y a un intérêt personnel ou financier, mais il y a quand même une part d'énergie sublimée.
Mmh. Alors, encore une autre forme, encore, on peut trouver d'autres formes.
Voilà, la pulsion de savoir, qui est une pulsion qui aussi désexualisée, par exemple. Donc, tout ce qui nous pousse vers le savoir, tout ce qui nous pousse à chercher, est en lien avec la sublimation. Mmh. Alors... pas uniquement au sens d'un scientifique ou d'un chercheur au CNRS, mais si on est à la recherche du sens de la vie, si on est à la recherche d'un sens commun pour l'humanité, si on cherche Dieu, tout ça, ça vient aussi de notre capacité à sublimer. En tout cas, quand la personne sent ce mouvement en elle...
Oui.
Qui la pousse à chercher.
C'est ça, oui. Donc à aller plus loin.
Voilà.
Oui.
Et ça, c'est vraiment en lien avec la sublimation.
Mmh. Alors, où trouve-t-on encore de la sublimation ?
Alors, dans les mythes fondateurs. Pour Freud, les mythes fondateurs, peut voir dans des sociétés primitives, par exemple, sont en lien avec la sublimation. Il a beaucoup étudié tous les totems, par exemple.
Oui.
Voilà, pour lui, c'est très en lien. En tout cas, les mythes totémiques sont en lien avec la sublimation.
Mmh.
Dans sa vision, il s'agit d'un processus créatif et projectif qui est donné pour l'humanité ou pour le groupe, quand c'était une tribu, par exemple, mais pour le groupe, et d'une façon plus vaste pour l'humanité, dans un but de lien social, de donner de la cohésion, de donner du sens et un sens commun.
Et on voit progressivement comment l'humanité, là, a évolué.
Voilà.
On cherche à sublimer sans le savoir, quoi.
Elle a sublimé sans le savoir. Alors, peut-être avec ce désir
de progresser,
oui. de donner du sens aussi.
Donner du sens, oui.
À la vie. Et puis à comment s'organise la vie sociale
dans un
groupe. Voilà, et tout ça, c'est vrai, c'est très en lien avec la capacité à sublimer.
D'autres formes encore de sublimation, parce qu'il y a plein de...
Voilà, alors l'intuition et les insights.
Qu'est-ce qu'on appelle les insights?
Alors, c'est des éclairages instantanés qu'on reçoit. Ça rejoint un peu l'intuition. L'intuition est souvent un peu plus diffuse et l'insight, c'est comme une lumière qu'on reçoit d'un coup, quoi. Il est probable que ça soit aussi le résultat, ou en tout cas en lien avec la capacité à sublimer, qui se situe, alors, non pas seulement au niveau de la pensée, comme on pourrait le croire, mais aussi d'un ressenti, parce que souvent, l'intuition, on la perçoit à partir d'un ressenti, et d'une pulsion sublimée qui saisit l'être en entier. C'est-à-dire que là, ça concerne plus une activité extérieure, mais ça part bien comme la pulsion d'un ressenti, mais qui est sublimé et qui
devient,
qui envahit l'être entier et qui est au service de l'être au lieu d'être au service de la société, par exemple.
Alors oui, l'insight, on peut dire
c'est quelque chose qui monte de l'inconscient à partir de perceptions, souvent sous forme d'images, ou à la limite des images et des mots. C'est un peu limite entre une perception sous forme d'images avec un peu de mots, mais pas une réflexion intellectuelle comme on est habitué.
C'est une lumière, qui est,
Et souvent aussi comme quelque chose qui nous pousse dans une direction.
Oui.
Voilà, et là, on voit que l'aspect, tout l'aspect poussé, c'est aussi lié à la pulsion et au désir. Voilà, ce qui fait que, on peut voir que la sublimation, elle participe à beaucoup d'aspects de la vie. Ce qui est assez logique puisqu'elle concerne l'énergie vitale et que l'énergie vitale on l'utilise dans tous les aspects de la vie.
Alors, je sais pas, on peut peut-être, donc c'est en lien aussi avec la dimension spirituelle, on va peut-être en parler maintenant ou...
Oui, on peut en parler.
On peut en parler, sublimation et spiritualité, alors parlons-en.
Voilà. Alors, là, on a vu les aspects de la vie courante, mais on voit que dans sublimation, il y a sublime aussi. Et donc, la sublimation, c'est aussi ce qui oriente vers le sublime. La sublimation, c'est ce qui nous incite au bon, au beau, au bien. Et qui nous pousse aussi vers le divin ou vers la recherche du divin. Et finalement, c'est ce processus qui nous pousse vers le haut pour y unir toute notre être, toutes oui. nos énergies.
Qui montent et qui voilà, convergent, et qui s'unissent pour
s'élever.
Oui.
Et quand on regarde dans l'homme, il y a deux aspects à ce qu'on pourrait appeler l'énergie vitale. Il y a celle qui monte de la terre, du corps, les instincts, les pulsions. Tout ça, c'est une énergie plutôt qui part du corps.
Oui. Et qui part du bas vers le haut.
Voilà, hein, tout cas dans le domaine spirituel. Mmh. Et puis, il y a celle qui descend du ciel, dans la dimension spirituelle, de l'ordre de la grâce, de l'esprit.
Mmh. Alors, ces deux aspects, qui voilà. montent et ce qui descend, doivent pouvoir justement se...
Voilà, s'unir, à mon sens, c'est la sublimation qui... permet d'unir ces deux aspects pour communier pleinement dans notre être.
Il faut notre aspiration, être une aspiration donc voilà. vers le haut pour rejoindre ce haut, oui. Donc avec toutes nos voilà. énergies.
Alors ça n'empêche pas que des fois la grâce saisit la personne aussi.
Mais elle descend, voilà, il faut qu'il y ait cette rencontre.
Voilà, mais globalement, majoritairement, le plus souvent, il faut qu'il y ait chez l'homme ce mouvement d'élévation dans la prière ascendant pour qu'il y ait communion. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la Genèse, on peut voir deux missions données à Adam et Ève. Celle d'être en permanence tournée vers Dieu, pour en recevoir la vie, et puis pour prier, et celle aussi de présenter à Dieu la création pour la sanctifier.
C'est ça, oui.
Voilà, et là on est bien dans des mouvements sublimatoires, en quelque sorte, de prendre la création pour l'élever vers Dieu, la présenter à Dieu.
Et même la nommer, Adam doit nommer, et présenter à Dieu pour toute cette...
Pour que la création soit sanctifiée.
Donc il y a une part de l'homme active.
Active et qui élève.
Qui élève. Ah. Hein, et donc, on peut dire de co-création à ce moment-là, hein, avec Dieu, puisqu'il participe à ce mouvement. Et donc d'alliance, quand on parle d'alliance,
dans l'alliance, alors l'alliance, il y a bien les deux. Qui s'unissent, que ce soit l'alliance au plan humain ou
l'alliance entre Dieu et l'homme.
Dieu et l'homme. Mais les deux y participent.
C'est ça. Et donc la sublimation, elle laisse mystérieusement ce qui permet.
Voilà, elle est ce mouvement de l'homme, elle est ce qui permet plutôt ce mouvement de l'homme vers Dieu en saisissant ses énergies, finalement, son énergie vitale, et en l'orientant vers Dieu.
Vers Dieu. Alors, c'est ce double mouvement d'accueil de la grâce et de la vie de Dieu, puis d'orientation, comme vous dites, de tout son être vers Dieu.
Vers Dieu, oui. Voilà, et c'est... Et c'est la sublimation qui, à mon avis, permet ça.
Ce processus.
Ou en tout cas, le favorise. Pour ce qui est du mouvement intérieur de l'homme vers Dieu. Alors, en même temps, ce mouvement, il est un peu inné.
Oui.
En l'homme, on pourrait dire, il choisit pas de l'avoir ou pas.
Oui.
Il peut le mobiliser.
Oui, il peut le mobiliser,
Mais il est inné chez l'homme.
Oui.
Ce qui rejoint la vision de la prédisposition de Freud. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inné chez l'homme. Voilà, alors peut-être un peu plus chez certains que chez d'autres. D'ailleurs, peut-être ça oriente des vocations religieuses. L'homme ne peut pas le créer de lui-même, il peut seulement le mobiliser.
On va y revenir dans quelques instants. Puis je rappelle le téléphone 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. On écoute Louis Chédid, Ainsi soit-il.
Radio Notre-Dame.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Si soit-il. Hey, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Tout, 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 ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Tel est le nom du film. Trampling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière. Et tu montes dans l'hélicoptère.
Louis Chédid, donc ainsi soit-il. Oui, on va prendre dans quelques instants Marc-Christine, mais peut-être terminer ce que vous nous disiez sur... donc ce mouvement
voilà,
de la sublimation
qui est inné chez l'homme et que l'homme peut accepter et favoriser en tournant son être vers Dieu. Voilà, et on pourrait dire aussi que la sublimation participe du don de l'homme ou de l'individu aux autres d'une façon presque gratuite. Alors, je dis presque parce que il peut y avoir une satisfaction narcissique, mais normale.
On l'a vu la dernière fois que le côté narcissique, c'est le juste amour de soi quand c'est ajusté. Hein.
Voilà, et qui est vraiment ajusté dans la sublimation. Un artiste qui réalise une œuvre, c'est aussi normal qu'il trouve une satisfaction au travail qu'il a fait. Quelqu'un qui fait de l'humanitaire, c'est normal qu'il ait une satisfaction à aider les autres.
C'est la joie qui est inhérente à juste action.
Enfin. Ouais.
Voilà. Donc on peut peut-être.
Oui.
On peut peut-être écouter tout de suite Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonjour. Bonjour Monsieur Barinet.
Bonsoir
Chantal.
Bonsoir. Oui.
Voilà, je vous appelais parce que je voulais savoir, il y a des fois la sublimation peut pas se faire. Et je voulais savoir à quoi c'était dû. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est dû quelquefois à au fait qu'on peut pas quitter son narcissisme, enfin une incapacité à sortir de son amour de soi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Enfin, je voulais vous parler d'une amie qui, comme ça, a eu une enfance très éprouvée, parce que sa mère avait une personnalité visiblement qui était une personnalité perverse, et elle l'a fait beaucoup souffrir. Enfin, elle a lui enlevé un peu sa confiance en elle-même, et ensuite elle a été plus ou moins rejetée par sa mère pour un drame dans la famille. Et en fait, elle n'a jamais vraiment trouvé sa juste place dans sa famille. Et au moment où elle s'est posée la question de la foi, enfin où la foi est intervenue, en fait, elle a pas tenu le coup pour des raisons de sexualité, parce que la sexualité joue un rôle de compensation par rapport à ses problèmes. Et du coup, elle ne pouvait plus se situer dans une ligne chrétienne, et ça a été très ennuyeux pour elle. Alors, est-ce que c'est une incapacité à sublimer, là ?
Oui, en tout cas, une difficulté à sublimer, justement parce que peut-être elle est sur un mode de fonctionnement plutôt pulsionnel, et sans doute elle n'arrive pas à sublimer sa sexualité. En même temps, j'ai envie de dire que normalement, ça ne l'empêche pas d'avoir une vie chrétienne. Vous avez dit que ça l'a empêché d'avoir une vie chrétienne.
C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à se stabiliser dans le mariage, parce qu'elle choisit toujours des hommes qui n'ont pas une vie, qui ne sont pas disponibles pour elle, ce qui fait qu'elle enfile les aventures, si vous voulez.
Oui, mais elle peut avoir la foi, être chrétienne.
Si vous voulez, elle ne se reconnaît plus. Enfin, elle a du mal en tant que divorcée, si vous voulez. Elle a du mal à se... En tant que divorcée, qui ne vit pas ce que dit l'Église. Enfin, je ne sais pas comment elle a évolué depuis que le pape François a fait le synode sur la famille, etc. Mais elle a du mal à se reconnaître... dans ce que dit l'Église sur elle, dans le fait qu'elle ne peut plus communier, par exemple.
D'accord.
Et en fait, en même temps, elle a des conceptions par rapport à la vie familiale, etc., qui sont à l'opposé de ce que dit l'Église. Elle pense que, comme elle s'est mariée à un moment où elle était assez immature et tout, elle dit que c'est idiot de prôner la virginité avant le mariage, parce que... Enfin, je veux dire, on peut faire beaucoup d'illusions, beaucoup se tromper, etc.
Aller dans le mouvement actuel de la société. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'empêche pas... Le chrétien n'est pas forcément quelqu'un de parfait.
Voilà, oui, d'ailleurs, c'est vrai,
chuter,
oui,
se exactement. Relever, rechuter. C'est pas... parce que elle a une vie qui correspond pas complètement à la vision chrétienne, que ça l'empêche d'être chrétienne.
De bouger,
d'évoluer.
Oui, de toute façon, moi, quand je la voyais, elle se voyait comme excommuniée.
Mais ça, c'est...
Oui, alors bon, c'est...
La façon dont beaucoup de gens se voient dans sa situation, j'essaie de lui expliquer que c'était pas parce qu'on était privé de la communion qu'on était excommunié. Je disais qu'elle pouvait toujours communier intérieurement, elle disait que c'était hypocrite, c'est pas la différence entre...
La communion spirituelle, on appelle ça la communion spirituelle.
Mais ce qui est important dans ce que vous dites, c'est, sans doute, elle a été blessée dans son enfance, ce qui fait que, finalement... soit elle fonctionne sur un mode plutôt pulsionnel qu'elle a du mal à maîtriser, soit elle fonctionne sur des compensations dans des satisfactions. Alors ça, il y en a, c'est la sexualité, il y en a d'autres, ça va être les achats, il y en a d'autres, ça va être autre chose, mais elle est sur un mode de compensation par rapport à un mal-être ou à une solitude intérieure, ou, vous voyez, Et que, voilà, dans ce mode de fonctionnement, il y a sans doute une difficulté à sublimer. Mais on va voir.
On va peut-être voir là, ça peut être éclairé.
On va regarder aussi comment on peut favoriser. Déjà, peut-être l'orienter vers l'esthétisme. Voilà, regarder les hommes, mais au niveau des statues du Louvre, ou regarder l'aspect esthétique.
Oui, mais est-ce que ça aide vraiment les gens, enfin?
Oui, ça aide à en tout cas progressivement à sublimer, à voir la personne non plus seulement comme un objet de désir, mais aussi à voir quelque chose de beau dans la personne. Par rapport, quand vous regardez une œuvre d'art, une statue, vous voyez d'abord la beauté. Et donc, ça peut aider à remettre en route ou à favoriser des processus sublimatoires.
Oui.
Voilà. Merci en tout cas, Marie-Christine.
Je vous en prie.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir. On va poursuivre un peu. Justement, quand la sublimation se passe mal, puisque Marie-Christine a parlé, qu'est-ce qui empêche, la sublimation, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors, la première des choses, c'est quand elle est en concurrence avec l'idéalisation.
Sublimation et idéalisation.
Et l'idéalisation, ouais. Ce sont deux processus qui sont en concurrence.
On en a parlé d'idéalisation autrefois.
On en a parlé la dernière fois.
Oui, justement.
Sur le thème de quand l'idéal devient souffrance.
Oui.
Rappeler, l'idéalisation, donc c'est différent de la sublimation. On vient mettre en lieu et place de l'idéal, donc de notre idéal personnel, un objet, un statut ou une personne.
Donc on enferme dans...
Voilà. Mais dans ce cas, l'énergie pulsionnelle n'est pas transformée, c'est-à-dire qu'elle garde sa nature, soit sexuelle ou agressive, parce qu'il y a des idéaux, on le voit, qui mènent à l'agressivité,
guerre,
à la mort, à la guerre. Et donc, elle conserve toute sa partie libidinale ou agressive.
Elle n'est pas transformée.
Elle n'est pas transformée. Ça va être tous les modes passionnels, que ce soit en relation amoureuse, que ce soit d'être passionnel, mais d'une façon excessive. C'est bien d'avoir des passions, des hobbies. Mais là, c'est de fonctionner sur un mode passionnel par rapport à une activité, par rapport à un statut. Et on voit que l'énergie n'a pas été transformée, qu'elle conserve tout son aspect libidinal. Alors que dans la sublimation, d'abord, c'est pas un objet qui vient remplacer, se mettre à la place de l'idéal, mais c'est d'abord une transformation de la nature de la pulsion, en quelque sorte, qui ensuite est réorientée vers une activité, vers une création. Mais ce n'est pas l'objet en lui-même qui est important, c'est le processus.
Donc voilà, c'est la différence avec sublimation et idéalisation. Dans l'idéalisation, ça se cristallise, polarise.
Et ça mène à l'illusion.
À l'illusion. Et la sublimation, au contraire, les énergies sont engagées vers plus de vie, de création.
Dit autrement, dans l'idéalisation, on se trompe sur soi-même, parce que finalement, c'est une façon un peu de se mentir à soi-même. Et du coup, il y a forcément une déception quand la personne est confrontée à la réalité. Alors que la sublimation est un processus de création qui pousse à l'illusion, à l'action, mais sans illusion. Mm-hmm. Il n'y a pas tout l'aspect d'illusion de l'idéalisation.
Mm-hmm. Alors, donc là, l'énergie transformée.
Voilà.
Donc,
alors,
oui, quand il y a, alors quand il y a absence, alors sublimation, voilà. Oui.
Ben, en fonction de l'intensité et de la qualité, alors de l'intensité des pulsions, puisque tout le monde n'a pas la même énergie vitale ou pulsionnelle, et puis de la qualité du refoulement, la personne risque alors soit d'être sous l'emprise de ses pulsions, et donc d'être dans la répétition, voilà ce que témoignait
Marie-Christine.
Soit de présenter des symptômes névrotiques, souvent plutôt un peu obsessionnels, soit de somatiser, soit encore d'avoir des relations ambiguës, que ce soit sur le plan sexuel ou agressif, d'être toujours
entre
les gens qui sont tout le temps dans l'ironie, par exemple. Oui. On voit qu'ils sont sur un mode un peu ambigu. Voilà, donc qui est un peu à la frontière entre être directement sur le mode pulsionnel et intermédiaire avec un peu de sublimation dedans.
Ils essaient, mais la sublimation prend, parvient pas. Alors, on peut dire que la sublimation, c'est une voie. Là, vous parliez de toutes ces, tout ce que ça peut donner comme.
C'est une voie alternative à toutes les obsessions. Alors, les obsessions, pas forcément TOC au sens psycho.
Oui.
Mais en tout cas, toutes les obsessions qui nous tournent dans la tête, les prises de tête, les.
Quand ça part. Permet de passer, quand on peut passer à un autre stade supérieur, la sublimation. Par exemple, quand on parlait du beau tout à l'heure, ou alors donc de passer d'obsession à l'émerveillement. Si on s'émerveille, on passe à une autre dimension.
On passe à une autre dimension et puis on ne reste pas prisonnier.
De l'obsession,
L'obsession, si on prend une personne comme ça dans ses pulsions sexuelles, elle va être prise dans ses fantasmes, en quelque sorte. Quand elle croise quelqu'un qui lui plaît, elle va se mettre en route dans ses fantasmes, et puis ça va être une prise de tête. Alors que si c'est orienté vers l'esthétisme, on dira, c'est une belle personne. Alors, belle physiquement, belle intérieurement. Puis on peut passer à autre chose.
On ne reste pas prisonnier.
On reste pas prisonnier.
Vous parliez de voie royale tout à l'heure, la sublimation.
Oui, on pourrait dire de voie alternative aussi aux obsessions, aux symptômes névrotiques. Parce que la nature même de la pulsion est transformée et orientée vers quelque chose qui a du sens.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est ça qui est important, c'est que c'est réorienté vers quelque chose porteur de sens. Et du coup, alors il n'y a plus de symptômes, il n'y a pas de raison qu'il y ait des symptômes psychologiques, puisque la pulsion est en lien avec un sens. Donc, toute la censure psychologique n'a pas de raison.
Puisqu'on passe au sens. Il y a un sens
supérieur à ce qui bloque. Il n'y a plus non plus de culpabilité, puisque ça fait sens, donc il n'y a pas de raison de se sentir coupable. Et même l'individu peut y trouver une satisfaction ajustée. Autrement dit, c'est une voie royale, entre guillemets, vers la santé psychique. Alors, ça signifie pas pour autant qu'il soit tout le temps nécessaire de sublimer, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de sublimer non plus. Qu'il peut aussi y avoir un équilibre entre libido et sublimation, parce que la sublimation, elle concerne essentiellement le surplus de libido.
Ah oui.
C'est-à-dire la libido disponible.
Mmh.
Et donc, ça veut dire qu'il est possible d'avoir une sexualité épanouie et de sublimer aussi. C'est important parce qu'on parle souvent de sublimation à la place dans la chasteté.
Mmh.
Mais non, tout le monde peut sublimer. Voilà, ça.
Voilà, merci Pascal Parigny. On écoute tout de suite, c'est Véronique Sanson et l'Orchestre Symphonique de Prague. Ma révérence.
Radio Notre-Dame.
C'était donc Véronique Sanson et l'Orchestre Symphonique de Prague, ma révérence, le titre. Alors, on peut revenir peut-être avant de voir comment, s'il est possible de développer sa capacité à sublimer, hein, on va voir ça. Maintenant, peut-être voir comment il y a par exemple cette question d'Israël hein, qui me paraît intéressante. Il nous dit, alors Herbert Marcus a dit que dans Eros et Civilisation, la sublimation des instincts est à l'origine des civilisations. La sublimation des instincts.
Tout à fait. Alors, en psychanalyse, on parle des pulsions. Mais en fait, c'est l'équivalent psychique, hein, comme on l'a dit au début.
Oui.
Mais oui, c'est ce qui... On a vu, c'est ce qui permet et la créativité et le lien social.
Mmh.
Et du coup, c'est à la fois le lien social, donc la civilisation, Et puis l'aspect créatif, c'est le progrès de la civilisation.
Donc l'homme, donc l'homme qui évolue dans en sublimant,
voilà.
En se développant.
Voilà. Il permet la civilisation et en même temps, il permet l'évolution de la civilisation. Et ça, on est tous concernés individuellement dans notre façon d'être et collectivement. C'est-à-dire que si on change tous, c'est toute la société qui va changer.
Ben voilà, bien sûr.
Voilà, après...
On entraîne la société. Donc voilà, l'importance de... Et ça passe aussi par ce processus de chacun. Et ensemble, la société. Hein,
voilà, avec...
Dans nos relations.
Voilà, avec...
Des
mouvements contradictoires, parce que c'est...
Oui, c'est pas linéaire.
C'est pas linéaire, c'est pas parfait. Alors, on peut le voir aussi dans l'écologie, qui est une façon aussi de prendre en compte le bien commun à la fois humain, puisque...
Humain, on dépend de la planète.
Mais aussi de toute la planète, toute la création.
Alors, on va voir. Là, on va peut-être, parce que le temps passe vite, voir comment, s'il est possible de développer alors sa capacité à sublimer, parce qu'on a vu que c'était quand même... inconscient, enfin, alors comment est-ce qu'on peut quand même développer?
En tout cas, on peut pas agir volontairement dessus, c'est-à-dire on peut pas se dire tiens là je vais sublimer.
Non,
ça marche pas comme ça.
Alors comment ça marche?
Par contre, je pense qu'il est possible d'en favoriser le processus. Alors je disais juste. Ah, c'est Marie-Christine.
Oui.
Voilà, d'orienter vers le beau, ce qui permet de sublimer et de réorienter la libido vers l'art, vers ce qui est beau, et d'avoir un autre regard sur les hommes, par exemple. Aussi, je pense par la prise de conscience de son ressenti.
Oui.
Donc d'être plus conscient de ce qui agit en nous, ça permet d'abord de mieux gérer ses pulsions, parce que on perçoit l'apparition et on peut agir dessus avant d'être complètement emporté par la pulsion. Mais aussi d'en faire quelque chose de constructif. Et peut-être dans ce cas-là, elles seront sublimées. C'est-à-dire, on peut pas dire « je vais sublimer », mais on peut sentir qu'il y a quelque chose en nous et se poser la question « tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ?»
Orienter donc vers...
Voilà. Et alors, il y a deux façons de faire. Il y en a qui vont faire du sport pour épuiser la pulsion. Mais ça, c'est pas de la sublimation. C'est, en gros, c'est se fatiguer comme ça. J'ai moins d'énergie. Et puis il y a l'autre version qui va être de sublimer pour réorienter. Alors, en tout cas, de réorienter autrement. Et peut-être que ça va favoriser et remettre en mouvement la sublimation. Voilà, et ça, c'est, à mon avis, quand même ce qui se fait en psychothérapie, en psychanalyse, où là, il y a de plus en plus de conscience, et la personne peut apprendre d'elle-même à réorienter, et du coup à remettre en route les processus sublimatoires.
Alors, oui, il y a d'autres moyens aussi?
Oui, alors la prière répétitive... du type chapelet, parce qu'elle permet de chanter et de se déconnecter, de déconnecter le mental. Donc, faut vraiment une prière qui soit répétitive où la personne entre dedans pour être coupée de son mental et n'être plus que dans cette prière répétitive.
Donc ça réoriente.
Eh oui. Et avec l'habitude et puis une attitude adaptée, c'est-à-dire d'avoir une ouverture aussi. Faut pas que ça devienne obsessionnel.
Oui, oui, bien
de
sûr.
De rester dans la prière répétitive.
Oui. Parce qu'on s'enferme.
Tout dépend comment on va le vivre. Donc, il faut à la fois la prière répétitive, mais l'ouverture aussi, s'il se passe quelque chose en nous.
Voilà, de lâcher pour être attentive à ce qui se passe, la vie qui...
Voilà, qui va émerger. Et ça, ça peut permettre une ouverture à un nouvel espace psychique. Alors, en lien avec la dimension spirituelle, puisqu'on est dans la prière... Et dans ce cas-là, il peut y avoir des inspirations, des insights qui permettent probablement de remettre en route ou qui participent de la sublimation.
Oui.
Voilà, donc c'est à la fois la prière répétitive, mais en restant ouvert à ce qui se passe et ce qui va se présenter.
Oui, oui. Donc être en ouverture, quoi, forcément.
Oui, oui.
Il y a qu'est-ce que d'autres
voilà,
moyens.
Mais l'avantage de la prière répétitive, c'est qu'elle nous coupe du mental.
Oui.
Sauf si on la fait d'une manière obsessionnelle, voilà. Mais oui, sinon, elle coupe du mental. L'autre moyen, c'est la contemplation, parce que elle propose une ouverture où l'orientation vers le sublime peut se produire spontanément.
Mais oui, parce qu'on s'ouvre on est en ouverture.
On est en ouverture complète. Alors, contrairement à d'autres formes de prière qui seraient guidées, par exemple, ou la méditation, où on va... Mais alors, même si la méditation est un chemin... qui mène à la contemplation.
Oui, mais après, il faut lâcher. Mais même les mystiques le disent.
Oui.
Saint Jean de la Croix, il y a la contemplation et il y a la méditation et la contemplation.
Après, voilà.
où il y a un côté passif et d'accueil de Dieu. Oui.
En tout cas, d'arriver à un état de contemplation. Alors, ce qui veut dire de faire silence en soi aussi.
Oui,
et de laisser venir ce qui se présente avec un esprit de totale ouverture à Dieu et de se laisser surprendre parce que, sans présupposer de ce qui va se passer, de qu'est-ce qu'on va ressentir, de.
On le laisse faire, c'est un laisser faire.
C'est un laisser faire complet. C'est les mêmes modes actifs-passifs qu'on a vu dans la sublimation. C'est-à-dire, faut quand même s'y mettre en contemplation.
Ah bah oui.
Et pourtant, c'est passif.
Oui.
Il
y a une décision, faut se.
Oui. Bah oui. Ça veut dire de faire le silence. Donc, il y a bien une part active, mais en même temps, il y a la part passive d'être à l'écoute de ce qui se passe. Le chapelet, s'il est vraiment fait d'une certaine façon, il y a le côté actif à répéter.
Et puis,
il y a aussi le lâcher prise et l'accueil de ce qui se passe. Et donc, ça, c'est le même système, le même mode actif passif de la sublimation, et donc c'est pas étonnant qu'il y ait résonance entre les deux et que du coup l'un mène à l'autre et vice versa, c'est-à-dire la sublimation peut favoriser des états de communion et en même temps la communion sans doute peut favoriser aussi les processus de sublimation.
Voilà, ça se complète dans les deux sens. Alors, on peut dire en conclusion, peut-être, presque tour d'horizon.
Voilà, contrairement à la vision péjorative de la sublimation, c'est une faculté qui a une grande utilité, alors, non seulement sociale, mais qu'elle participe aussi à tous les élans de l'homme vers le sublime et vers Dieu. Et dans la spiritualité, comme on le disait, il y a le double mouvement où l'homme oriente son énergie vers Dieu et toutes ses facultés, puis celui inverse de la grâce qui descend en lui. Et donc, on pourrait dire que la sublimation participe d'une façon importante, mais dit au niveau positif,
oui.
Du mouvement d'élévation de l'homme vers Dieu, et l'ouvre à accueillir la grâce.
Grand merci, Pascal Pariné. Je rappelle les deux stages, 4-5 juillet, confiance en soi, 18-19 juillet, sortir du harcèlement de la violence, 06-60-15-79-60, contact@ifpsy.com. Les renseignements sont au standard si vous n'avez pas noté. Merci à Laetitia qui vous accueille au standard ce soir, Guillaume à la technique, Marie, Marcel et Denis pour leur collaboration. Cette émission est disponible sur CD et en podcast demain à 22h dans la nuit. En cette fête du Sacre de Jésus, au cœur de l'année de la miséricorde, notre invité sera le père Martin Prader, prêtre de la communauté de l'Emmanuel, supérieur du séminaire Saint-Joseph de Bordeaux. Et donc, il nous conduira à l'école du cœur de Jésus, siège de la miséricorde, bonne nouvelle pour le monde. Très bonne nuit, bonne fête du Sacré-Cœur.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.